Chapitre 5 Dépit. J'étais fatigué, pourtant je ne pus dormir. Je comptais les heures sans réussir à résumer les émotions de ma soirée et à conclure avec moi-même. Il n'y avait qu'une chose certaine pour moi, c'est que je n'aimais plus la duchesse et que j'avais failli faire une lourde école en m'attachant à elle. Mais une âme blessée cherche vite une autre blessure pour effacer celle qui mortifie l'amour-propre, et j'éprouvais un besoin d'aimer qui me donnait la fièvre. Pour la première fois, je n'étais plus le maître absolu de ma volonté. J'étais impatient du lendemain. Depuis 12 heures, j'étais entré dans une nouvelle phase de ma vie et ne me reconnaissais plus. Je me crus malade. Je ne l'avais jamais été. Ma santé avait fait ma force. Je m'étais développé dans un équilibre inappréciable. J'eus peur en me sentant le pouls légèrement agité. Je sautai à bas de mon lit, je me regardai dans une glace et je me mis à rire. Je rallumai ma lampe, je taillai un crayon, je jetai sur un bout de papier les idées qui me vinrent. Je fis une composition qui me plut, quoique ce fût une mauvaise composition. C'était un homme assis entre son bon et son mauvais ange. Le bon ange était distrait, comme pris de sollicitude pour un passant auquel le mauvais ange faisait des agaceries dans le même moment. Entre ces deux anges, le personnage principal, délaissé, ne comptant ni sur l'un ni sur l'autre, regardait en souriant une fleur qui personnifiait pour lui la nature. Cette allégorie n'avait pas le sens commun, mais elle avait une signification pour moi seul. Je me crus vainqueur de mon angoisse, je me recouchai, je m'assoupis, j'eus le cauchemar, je rêvais que j'égorgeais ces lieux. Je quittai mon lit décidément, je m'habillai aux premières lueurs de l'aube, j'allais faire un tour de promenade sur les remparts et, quand le soleil fut levé, je gagnai le logis de Celio. Celio ne s'était pas couché. Je le trouvais écrivant des lettres. « Vous n'avez pas dormi, me dit-il, et vous êtes fatigué pour avoir essayé de dormir. Oh ben, j'ai fait mieux que vous. J'ai passé la nuit dehors. Quand on est excité, il faut s'exciter davantage. C'est le moyen d'en finir plus vite. » « Fi, Celio, dis-je en riant, mais vous me scandalisez. »« Il n'y a pas de quoi, reprit-il, car j'ai passé la nuit sagement à causer et à écrire avec la plus honnête des femmes. »« Qui, Mademoiselle Boccaferri ? Eh, pourquoi devinez-vous ? Est-ce que, oh, mais il serait trop tard, elle est partie. »« Partie ? Ah, ah, vous pâlissez. » « Tiens, tiens, je ne m'étais pas aperçu de cela. Il est vrai que j'étais tout plongé en moi-même hier soir. Mais écoutez, en vous quittant cette nuit, j'étais de fort mauvaise humeur contre vous. J'aurais causé encore 2 heures avec plaisir et vous me disiez d'aller me reposer, ce qui voulait dire que vous aviez assez de moi. Résolu à causer jusqu'au grand jour, n'importe avec qui, j'allais droit chez le vieux Boccaferri. Je sais qu'il ne dort jamais de manière, même quand il a bu, à ne pas s'éveiller tout d'un coup le plus honnêtement du monde et parfaitement lucide. Je vois de la lumière à sa fenêtre, je frappe, je le trouve debout, causant avec sa fille. Ils accourent à moi, m'embrassent et me montrent une lettre qui était arrivée chez eux pendant la soirée et qui venait d'ouvrir en rentrant. Ce que contenait cette lettre, oh, je ne puis vous le dire, vous le saurez plus tard. C'est un secret important pour eux, et j'ai donné ma parole de n'en parler à qui que ce soit. Je les ai aidés à faire leur paquet, je me suis chargé d'arranger ici leurs affaires avec le théâtre, j'ai causé des miennes avec Cecilia pendant que le vieux allait chercher une voiture. Bref, il y a 1 heure, que je les ai vus monter et sortir de la ville. Et bien à présent, me voilà réglant leur compte, en attendant que j'aille à la direction théâtrale pour dégager la Cecilia de toute poursuite. Ne me questionnez pas, puisque j'ai la bouche scellée, mais je vous prie de remarquer que je suis fort actif et fort joyeux ce matin. Oh, que je ne songe pas à ménager la fraîcheur de ma voix, enfin, que je fais du dévouement pour mes amis, ni plus ni moins qu'un simple épicier. Oh, que cela ne vous émerveille pas trop. Je suis obligeant parce que je suis actif, et qu'au lieu de me coûter, cela m'occupe et m'amuse. Voilà tout. Vous ne pouvez même pas me dire vers quelle contrée il se dirige. Non, pas même cela. C'est bien cruel, n'est-ce pas? Ben, prenez-vous-en la Boccaferri, qui n'a pas fait d'exception à votre faveur au silence qu'elle m'imposait, tant les femmes sont ingrates et perverses. Tiens, j'avais cru que vous vous faisiez une exception en faveur de mademoiselle Boccaferri dans vos anathèmes contre son sexe. Parlons-nous sérieusement? Oui, certes, elle est une exception, et je le proclame. C'est une femme honnête, mais pourquoi? Parce qu'elle n'est point belle. Vous êtes bien persuadé qu'elle n'est pas belle, repris-je avec ferveur. Vous parlez comme un comédien, mais non comme un artiste. Moi, je suis peintre, je m'y connais, et je vous dis qu'elle est plus belle que la duchesse de X, qui a tant de réputation, et que la prima donna actuelle dont on fait tant de bruit. Je m'attendais à des plaisanteries ou à des négations de la part de Celio. Il ne me répondit rien, changea de vêtements et m'emmena déjeuner. Chemin faisant, il me dit brusquement, « Mais vous avez parfaitement raison, elle est plus belle qu'aucune femme au monde. Seulement j'avais la mauvaise honte de la nier parce que je croyais être le seul à m'en apercevoir. Mais vous parlez comme un possesseur, Celio, comme un amant. Moi ! S'écria-t-il en tournant son visage vers le mien avec assurance. « Mais je ne le suis pas, je n'ai jamais été, et je ne le serai jamais. » « Et d'où vient que vous ne désirez pas l'être ?»« De ce que je la respecte et veux l'aimer toujours, de ce qu'elle a été la protégée de ma mère, qui l'estimait, de ce qu'elle est après moi, et peut-être autant que moi, le cœur qui a le mieux compris, le mieux aimé, le mieux pleuré ma mère. » « Oh, ma vieille Cecilia, jamais! C'est une tête sacrée, et c'est la seule tête portant un bonnet sur laquelle je ne voudrais pas mettre le pied. »« Toujours étrange et inconséquente, Celio. Vous reconnaissez qu'elle est respectable et adorable, et vous méprisez tant votre propre amour que vous l'en préservez comme d'une souillure. Vous ne pouvez donc que flétrir et dégrader ce que votre souffle atteint. » Mais quel homme ou quel diable êtes-vous? Mais permettez-moi de vous le dire et d'employer un des mots crus que vous aimez. Cela me paraît de la blague, une prétention au méphistophélisme que votre âge et votre expérience ne peuvent pas encore justifier. Bref, non, je ne vous crois pas. Vous voulez m'étonner, faire le fort, l'invincible, le satanique, mais... Tout bonnement, vous êtes un honnête jeune homme, un peu libertin, un peu taquin, un peu fanfaron. Pas assez pourtant pour ne pas comprendre qu'il faut épouser une honnête fille quand on l'a séduite. Et comme vous êtes trop jeune ou trop ambitieux pour vous décider, sitôt à un mariage si modeste, vous ne voulez pas faire la cour à mademoiselle Boccaferri. Plût au ciel que je fusse ainsi, dit Celio, sans montrer d'humeur et sans regimber. Je ne serais pas malheureux, et je le suis pourtant. Mais ce que je souffre est atroce. Oh, mais si j'étais honnête et bon, je serais naïf, j'épouserais demain la Boccaferri, et j'aurais une existence calme, rangée, charmante, d'autant plus que ce ne serait peut-être pas un mariage aussi modeste que vous croyez. Qui connaît l'avenir? Je ne puis m'expliquer là-dessus, mais sachez que quand même la Cecilia serait une riche héritière, parée d'un grand nom, je ne voudrais pas devenir amoureux d'elle. Écoutez, Salentini, une grande vérité, bien niaise, un lieu commun. L'amour des mauvaises femmes nous tue, et l'amour des femmes grandes et bonnes les tue. Nous n'aimons pas beaucoup que ce qui nous aime peu, et nous aimons mal ce qui nous aime bien. Ma mère est morte de cela à 40 ans, après 10 années de silence et d'agonie. Ah, c'est donc vrai, oui, j'avais entendu dire. Celui qui l'a tué vit encore. Oh, je n'ai jamais pu l'amener à se battre avec moi. J'ai insulté atrocement, et lui qui n'est point un lâche, autant s'en faut. Il a tout supporté plutôt que de lever la main contre le fils de la Floriani. Aussi, je vis comme un réprouvé, avec une vengeance inassouvie qui fait mon supplice. Et je n'ai pas le courage d'assassiner l'assassin de ma mère. Tenez, vous voyez en moi un nouvel Hamlet, qui ne pose pas la douleur et la folie, mais qui se consume dans le remords, dans la haine et dans la colère. Et pourtant, vous l'avez dit, je suis bon. Tous les égoïstes sont faciles à vivre, tolérants et doux. Mais je suivrai l'exemple d'Hamlet. Je ne briserai point la pâle Ophélia. Qu'elle aille dans un cloître, plutôt. Je suis trop malheureux pour aimer. Je n'en ai plus le temps ni la force. Et plus Hamlet se complique en moi de passion encore vivante, je suis ambitieux, personnel. L'art, pour moi, n'est qu'une lutte, et la gloire qu'une vengeance. Mon ennemi avait prédit que je ne serais rien, parce que ma mère m'avait trop gâté. Je veux l'écraser d'un éclatant démenti à la face du monde. Quant à la Boccaferri, je ne veux pas être pour elle ce que cet homme maudit a été pour ma mère, et je le serai. Voyez-vous, il y a une fatalité. Les orages et les malheurs qui nous frappent dans notre enfance s'attachent à nous comme des furies, et plus nous tâchons de nous en préserver, plus nous sommes entraînés par je ne sais quel funeste instinct d'imitation à les reproduire plus tard. Le crime est contagieux. L'injustice et la folie que j'ai détestées chez l'amant de ma mère. Mais je les sens s'éveiller en moi dès que je commence à aimer une femme. Je ne veux donc pas aimer, car si je n'étais pas la victime, je serais le bourreau. Donc vous avez peur aussi, quelquefois, et à votre insu, d'être la victime. Donc vous êtes capable d'aimer. Peut-être, mais j'ai vu, par l'exemple de ma mère, dans quel abîme nous précipite le dévouement. Oh, je ne veux pas tomber dans cet abîme. Et vous ne croyez pas que l'amour puisse être soumis à d'autres lois qu'à cette diabolique alternative du dévouement méconnu et immolé ou de la tyrannie délirante et homicide? Non. Pauvre Celio, je vous plains. Je vois que vous êtes un homme faible et passionné. Je vous connais enfin. Vous êtes destiné en effet à être victime ou bourreau. Mais vous ne faites pas là le procès qu'à vous-même, et le genre humain n'a pas forcément votre complice. Oh, vous me méprisez parce que vous avez meilleure opinion de vous-même, s'écria Celio avec amertume. Eh bien, attendons. Si vous êtes sincère, nous philosopherons ensemble un jour. Nous ne disputerons plus. Jusque-là, que voulez-vous faire? La cour à ma vieille Boccaferri. En ce cas, prenez garde. Oh, je veille à sa défense, comme un jeune chien déjà méfiant et hargneux. Il vous faudra marcher droit avec elle. Si je la respecte, ce n'est pas pour permettre aux autres de s'emparer d'elles-mêmes dans le secret de leurs pensées. Je fus frappé de l'âpreté de ces dernières paroles de Celio et de l'accent de haine et de dépit qui les accompagna. Celio, lui dis-je, vous serez jaloux de la Boccaferri, mais vous l'êtes déjà. Convenez que nous sommes rivaux. Mais soyons francs, je vous en supplie, puisque vous dites que la franchise, c'est le signe de la force. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas son amant et que vous ne vouliez pas l'être. Mais Descendez dans le plus profond de votre cœur et voyez si vous êtes bien sûr de l'avenir. Puis vous me direz si je vais sûrement briser et si nous sommes dès aujourd'hui amis ou ennemis. Oh, ce que vous me demandez là est délicat, répondit-il, mais ma réponse ne se fera pas attendre. Je ne mens jamais aux autres ni à moi-même. Je ne serai jamais jaloux de la Cecilia, parce que je n'en serai jamais amoureux. À moins que, pourtant, elle ne devienne amoureuse de moi, ce qui est aussi invraisemblable que de voir la duchesse devenir sincère et le vieux Boccaferri devenir sobre. Et pourquoi donc, Celio? Si, par malheur pour moi, la Cecilia vous voyait et vous entendait dans cet instant, elle pourrait bien être émue, tremblante, indécise. Mais si je la voyais indécise, émue et tremblante, je fuirais, oh, je vous en donne ma parole d'honneur, monsieur Salentini. Je sais trop ce que c'est que de profiter d'un moment d'émotion et de prendre les femmes par surprise. Ce n'est pas ainsi que je voudrais être aimé d'une femme comme la Boccaferri. Vous n'y trouverez aucun plaisir et aucune gloire, parce qu'elle est sincère et honnête, parce qu'elle ne me cacherait pas sa honte et ses larmes, parce qu'au lieu de volupté, je ne lui donnerais et ne recevrais d'elle que de la douleur et les remords. Oh non, non, ce n'est pas ainsi que je voudrais posséder une femme pure. Et comme je ne cherche que l'ivresse, je ne m'adresserai jamais qu'à celles qui ne veulent rien de plus. Êtes-vous content? Pas encore, ami. Rien ne me prouve que la Boccaferri ne vous aime pas profondément, et que l'amitié qu'elle proclame pour vous ne soit pas un amour qu'elle se cache encore à elle-même. S'il en était ainsi, si un jour ou l'autre vous veniez à le découvrir, vous la disputeriez, n'est-ce pas? Oui, certes, monsieur, répondit Chélio sans hésiter. Et puisque vous l'aimez, vous devez comprendre que son amour ne soit pas chose indifférente. Mais alors, mon ami, ajouta-t-il, saisi d'un attendrissement douloureux qui se peignit sur son visage expressif et sincère, je vous demanderai en grâce de vous battre avec moi. J'aurai la chance d'être tué parce que je me bats mal. Je suis passé maître à la salle d'armes en présence d'un adversaire réel. Je suis ému, la colère me transporte et j'ai toujours été blessé. Ma mort sauverait la Cecilia de mon amour. S'il ne me manquait pas, si nous en venons jamais là. Bon, à présent, déjeunons, rions et soyons amis, car je suis bien sûr qu'elle me regarde comme un enfant. Je ne vois en elle qu'une vieille amie, et si cela continue, je ne vous porterai pas ombrage. Mais vous l'épouseriez, n'est-ce pas? Autrement, je me battrais de sang-froid et je vous tuerais, comptez-y. À la bonne heure, répondis-je. Ce que vous me dites là me prouve qui elle est, et ce respect pour la vertu dans la bouche d'un soi-disant libertin me pousse au mariage les yeux fermés. Nous nous serrâmes la main et notre repas fut fort enjoué. J'étais plein d'espoir et de confiance, je ne sais pourquoi, car Mademoiselle Boccaferri était partie. Je ne savais plus quand ni où je la retrouverais, et elle ne m'avait pas accordé seulement un regard qui pût me faire croire à son amour pour moi. Étais-je en proie à un accès de fatuité? Non, j'aimais. Mon entretien avec Tchélio venait de rendre évident pour moi ce mérite que j'avais deviné la veille. L'amour élargit la poitrine et parfume l'air qui y pénètre. C'était mon premier amour véritable. Je me sentais heureux, jeune et fort. Tout se colorait à mes yeux d'une lumière plus vive et plus pure. Savez-vous un rêve que je faisais ces jours-ci, me dit Chélio, et qui me revient plus sérieux après mon fiasco? C'est d'aller passer quelques semaines, quelques mois peut-être, dans un coin tranquille et ignoré, avec le vieux fou Boccaferri et sa très raisonnable fille. Eux deux, ils possèdent le secret de l'art. Chacun représente une face. Le père est particulièrement inventif et spontané. La fille éminemment consciencieuse et savante, car c'est une grande musicienne que la Cellisia. Le public ne s'en doute pas, et vous, vous n'en savez probablement rien non plus. Eh bien, elle est peut-être la dernière grande musicienne que possédera l'Italie. Elle comprend encore les maîtres qu'aucun nouveau chanteur en renom ne comprend plus. Qu'elle chante dans un ensemble avec sa voix qu'on entend à peine, tout le monde marche sans se rendre compte qu'elle seule contient et domine toutes les parties par sa seule intelligence et sans que la force du poumon y soit pour rien. On le sent, on ne le dit pas. Quels sont les favoris du public qui voudraient avouer la supériorité d'un talent qu'on n'applaudit jamais? Mais allez ce soir au théâtre, vous verrez comment marche l'opéra. On s'apercevra un peu de la lacune creusée par l'absence de la Boccaferri. Bon, il est vrai qu'on ne dira pas à quoi tient ce manque d'ensemble et d'âme collective. Ce sera l'enrouement de celui-ci, la distraction de celui-là. Les voix s'en prendront à l'orchestre et réciproquement. Mais moi, qui serai spectateur ce soir, je rirai de la déroute générale et je me dirai « Sot public, vous aviez un trésor et vous ne l'avez jamais compris. Il vous faut des roulades, on vous en donne, en veux-tu, en voilà, et vous n'êtes pas content. Tâchez donc de savoir ce que vous voulez. En attendant, moi, j'observe et je me repose. » Quand vous ne m'apprenez rien, Celio. Précisément, hier soir, je rompais une lance contre la duchesse de pour le talent élevé et profond de mademoiselle Boccaferri. Mais la duchesse ne peut pas comprendre cela, reprit Celio en haussant les épaules. Elle n'est pas plus artiste que Mabotte. Il faut être extrêmement fort pour reconnaître des qualités enfouies sous un fiasco perpétuel. Car c'est là le sort de la pauvre Boccaferri. Qu'elle dise comme un maître les parties les plus insignifiantes de son rôle, quatre ou cinq vrais dilettanti épars dans les profondeurs de la salle souriront d'un plaisir mystérieux et tranquille. Quelques demi-musiciens diront « quelle belle musique, comme c'est écrit !» sans reconnaître qu'ils ne se fussent pas aperçus de cette perfection dans le détail d'une belle chose, si la seconda donna n'était pas une grande artiste. Ainsi va le monde, Salentini. Moi, je veux faire du bruit et je cherche le succès de toute la puissance de ma volonté, mais c'est pour me venger du public que je hais, c'est pour le mépriser davantage. Je me suis trompé sur les moyens, mais je réussirai à les trouver en profitant du vieux Boccaferri, de sa fille et de moi-même par-dessus tout. Pour cela, voyez-vous, il faut que je me perfectionne comme véritable artiste. Ce sera l'affaire de peu de temps. Chaque année pour moi représente 10 ans de la vie du vulgaire. Je suis actif et entêté. Quand j'aurai acquis ce qui me manque pour moi-même, je saurai parfaitement ce qui manque au public pour comprendre le vrai mérite. Je parviendrai à être infiniment plus mauvais que je ne l'étais hier devant lui, et par conséquent, lui plaire infiniment. Voilà ma théorie. Comprenez-vous? Oh, je comprends qu'elle est fausse, et que si vous ne cherchez pas le beau et le vrai pour l'enseigner au public, en supposant que vous lui plaisiez dans le faux, vous ne posséderez jamais le vrai. On ne dédouble jamais son être à ce point. On ne fait point la grimace sans qu'il en reste un pli au plus beau visage. Prenez garde, vous avez fait fausse route et vous allez vous perdre entièrement. Mais voyez pourtant l'exemple de la Cecilia, s'écria Celio, fort animé. Ne possède-t-elle pas le vrai en elle? Ne s'opiniâtre-t-elle pas à me donner au public que du vrai? Et n'est-elle pas méconnue et ignorée? Et il ne faut pas dire qu'elle est incomplète et qu'elle manque de force et de feu. Voyez-vous, pas plus loin qu'il y a 2 jours, j'ai entendu la Boccaferri chanter et déclamer seule entre 4 murs, et ne sachant pas que j'étais là pour l'écouter. Elle embrasait l'atmosphère de sa passion. Elle avait des accents à faire vibrer et tressaillir une foule comme un seul homme. Et cependant, elle ne méprise pas le public. Elle se borne à ne pas l'aimer. Elle chante bien devant lui, pour son propre compte, sans colère, sans passion, sans audace. Et le public reste sourd et froid. Il veut avant tout qu'on se donne de la peine pour lui plaire, et moi, je m'en donnerai, mais il me le paiera, car je ne lui donnerai de mon feu et de ma science que le rebut, encore trop bon pour lui. Je ne pus calmer Celio. Il prenait beaucoup de café en jurant contre la platitude du café viennois. Il cherchait à s'exciter de plus en plus. La rage de sa défaite lui redevenait plus amère. Je lui rappelai qu'il fallait aller au théâtre. Il y courut en me donnant rendez-vous pour le soir chez moi. Chapitre 6. La Duchesse. À l'heure convenue, j'attendais Chelio, mais je ne reçus qu'un billet ainsi conçu. Mon cher ami, je vous envoie de l'argent et des papiers pour que vous ayez à terminer demain l'affaire de Mademoiselle Boccaferri avec le théâtre. Rien n'est plus simple. Il s'agit de verser la somme ci-jointe et de prendre un reçu que vous conserverez. Son engagement était à la veille d'expirer. Elle n'est passible que d'une amende ordinaire pour deux représentations auxquelles elle fait défaut. Elle trouve ailleurs un engagement plus avantageux. Moi, je pars, mon cher ami. Je serai parti quand vous recevrez cet adieu. Je ne puis supporter une heure de plus l'air du pays et les compliments de condoléances. Je me fâcherai, je dirai ou ferai quelques sottises. Je vais ailleurs, je pousse plus loin. En avant, en avant. Vous aurez bientôt de mes nouvelles et d'autres qui vous intéressent davantage. À vous de cœur, Celio Floriani. Je retournai cette épître pour voir si elle était bien à mon adresse. Adorno Salentini, place numéro, rien n'y manquait. Je retombai anéanti, dévoré d'une affreuse inquiétude, en proie à de noirs soupçons, consterné d'avoir perdu la trace de Cecilia et de celui qui pouvait me la disputer ou m'aider à la rejoindre. Je me crus joué. Des jours, des semaines se passèrent, et je n'entendis parler ni de Celio, ni de Boccaferri. Personne n'avait fait attention à leur brusque départ, puisqu'il s'était effectué presque avec la clôture de la saison musicale. Je lisais avidement tous les journaux de musique et de théâtre qui me tombaient sous la main. Nulle part il n'était question d'un engagement pour Cecilia ou pour Celio. Je ne connaissais personne qui fût lié avec eux, excepté le vieux professeur de Mademoiselle Boccaferri, qui ne savait rien ou ne voulait rien savoir. Je me disposais à quitter Vienne, où je commençais à prendre le spleen, et j'allais faire mes adieux à la duchesse, espérant qu'elle pourrait peut-être me dire quelque chose de Celio. Toute cette aventure m'avait fait beaucoup de mal. Au moment de m'épanouir à l'amour par la confiance et l'estime, je me voyais rejeté dans le doute, et je sentais les atteintes empoisonnées du scepticisme et de l'ironie. Je ne pouvais plus travailler. Je cherchais l'ivresse et ne la trouvais nulle part. Je fus plus méchant dans mon entretien avec la duchesse que Celio lui-même ne l'eût été à ma place. Ceci la passionna pour, je devais dire, contre moi. Les coquettes sont ainsi faites. L'inquiétude mal déguisée avec laquelle je l'interrogeais sur Celio lui fit croire que j'étais resté jaloux et amoureux d'elle. Elle me jura de ne pas savoir ce qu'il était devenu depuis la malencontreuse soirée de son début. Mais en me supposant épris d'elle et en voyant avec quelle assurance je le niais, elle se forma une grande idée de la force de mon caractère. Elle prit à cœur de le dompter, elle se piqua au jeu, une lutte acharnée avec un homme qui ne lui montrait plus de faiblesse et qui l'abandonnait sur un simple soupçon, lui parut digne de toute sa science. Je quittai Vienne sans la revoir. J'arrivai à Turin au bout de 2 jours, elle y était aussi. Elle se combattait ouvertement, elle faisait pour moi ce qu'elle n'avait jamais fait pour personne. Cette femme qui m'avait tenu dans un plateau de la balance avec Celio dans l'autre, pesant froidement les chances de notre gloire en herbe pour choisir celui des deux qui flatterait le plus sa vanité, cette sage coquette qui nous ménageait tous les deux pour y conduire celui de nous qui serait brisé par le public, cette grande dame, jusque-là fort prudente et fort habile dans la conduite de ses intrigues galantes, se jetait à corps perdu dans un scandale, sans que j'eusse grandi d'une ligne dans l'opinion publique, et tout simplement par la seule raison que je lui résistais. Pourtant, Celio avait été aussi cruel avec elle. Elle ne s'en était pas émue d'une manière apparente. Il ne suffisait donc pas de lui résister pour qu'elle s'éprît de la sorte. Elle avait senti que Celio ne l'aimait pas et qu'il n'était peut-être pas capable d'aimer sérieusement. Mais outre que mon caractère et mon savoir-vivre lui offraient plus de garanties, elle m'avait vu sincèrement ému auprès d'elle. Elle devinait que j'étais capable de concevoir une grande passion, et elle pensait me l'inspirer encore en dépit de mon courage et de ma fierté. Elle se trompait de date, il est vrai, et il se trouva qu'elle se fit pour moi, lorsque j'étais refroidi à son égard, ce qu'elle n'eût point songé à faire lorsque j'étais enflammé. Les femmes ne sont jamais si habiles qu'elles ne tombent dans le piège de leur propre vanité. Je la vis donc se jeter dans mes bras à un moment de ma vie où je ne l'aimais point et où je souffrais à cause d'une autre femme. Il ne me fallut ni courage, ni vertu, ni orgueil pour la repousser d'abord et pour tenter de la faire renoncer à sa propre perte. Mais j'y mis une énergie qui l'excita d'autant plus à se perdre. J'aurais été un scélérat, un roué, un ennemi acharné à son désastre, que je n'aurais pas agi autrement pour la pousser à bout et lui faire fouler aux pieds tout souci de sa réputation. Elle crut que je mettais son amour à l'épreuve et le mien au prix de cette épreuve décisive, éclatante. Et cette femme, funeste aux autres, le devint volontairement à elle-même, tout d'un coup, au milieu d'une vie d'égoïsme et de calcul. Elle tendit tous les ressorts de sa volonté pour vaincre une aversion qu'elle prenait seulement pour de la méfiance. La crise de son orgueil blessé l'emporta sur les habitudes de sa vanité froide et dédaigneuse. Peut-être aussi s'ennuyait-elle, peut-être voulait-elle connaître les orages d'une passion véritable, ou d'une lutte violente. Ma résistance l'irrita à ce point qu'elle jura de me forcer par un éclat à tomber à ses pieds. Elle chercha à se faire insulter publiquement pour me contraindre à prendre sa défense. Elle vint en plein jour chez moi, dans sa voiture. Elle confia son prétendu secret à 3 ou 4 amis, femme du monde, qu'elle choisit les plus indiscrètes possibles. Elle laissa tomber son masque en plein bal, au moment où elle s'emparait de mon bras. Enfin, elle me poursuivit jusque dans une loge de théâtre, où elle se fut montrée à tous les regards si j'en fus sorti précipitamment avec elle. Cette torture dura 8 jours, pendant lesquels elle sut multiplier des incidents incroyables. Cette femme indolente et superbe de mollesse était en proie à une activité dévorante. Elle ne dormait pas, elle ne mangeait plus, elle était changée d'une manière effrayante. Elle savait aussi s'opposer à ma fuite en me faisant croire à chaque instant qu'elle venait me dire adieu et qu'elle renonçait à moi. J'aurais voulu calmer la douleur que je lui causais, l'amener à de bonnes résolutions, la quitter noblement et avec des paroles d'amitié. Je le faisais qu'irriter son désespoir, et il reparaissait plus terrible, plus impérieux, plus enlaçant au moment où je me flattais de l'avoir fait céder à l'empire de la raison. Ce que je souffris durant ces 8 jours est impossible à confesser. L'amour d'une femme est peut-être irrésistible, quelle que soit cette femme. Et celle-là était belle, jeune, intelligente, audacieuse, pleine de séduction. Le chagrin qui la consumait rapidement donnait à sa beauté un caractère terrible, bien fait pour agir sur une imagination d'artiste. Je l'avais toujours crue lascive, elle passait pour l'être. Elle l'avait peut-être toujours été, mais avec moi, elle paraissait dévorée d'un besoin de cœur qui faisait taire les sens et l'ornait du prestige nouveau de la chasteté. Je me sentais glisser sur une pente rapide, dans un précipice sans fond, car il me fallait qu'aimer un instant cette femme pour être à jamais perdue. Cela, je n'en pouvais douter. Je savais bien quelle réaction de tyrannie j'aurais à subir une fois que j'aurais abandonné mon âme à cet attrait perfide. Je me connaissais, ou plutôt, je me pressentais. Fort dans le combat, j'étais trop naïf dans la défaite pour n'être pas enlacé à tout jamais par ma conscience. Et je pouvais encore combattre parce que je me retenais d'aimer, car je voyais en elle tout le contraire de mon idéal. Le dévouement, il est vrai, mais le dévouement dans la fièvre, l'énergie dans la faiblesse, l'enthousiasme dans l'oubli de soi-même, et point de force véritable, point de dignité, point de durée possible dans ce subit engouement. Elle me faisait horreur et pitié en même temps qu'elle allumait en moi des agitations sauvages et de sombre curiosité. Je voyais mon avenir perdu, mon caractère déconsidéré, toutes les femmes effrontées et galantes ayant déjà l'œil sur moi pour me disputer à une puissante rivale et jouer avec moi à coups de griffes comme des panthères avec un gladiateur. Je devenais un homme à bonne fortune, moi qui détestais ce plat métier, un charlatan pour les esprits sévères qui m'accuserait de chercher la renommée dans le scandale des aventures au lieu de la conquérir par le progrès dans mon art. Je me sentais défaillir, et lorsque le feu de la passion montait à ma poitrine, la sueur froide de l'épouvante coulait de mon front. Que cette femme fût perdue par moi ou seulement acceptée par moi dans sa chute volontaire, j'étais lié à elle par l'honneur. Je ne pouvais plus l'abandonner. J'aurais beau m'étourdir et m'exalter en me battant pour elle, il me faudrait toujours traîner à mon pied ce boulet dégradant d'un amour imposé par la faiblesse d'un instant à la dignité de toute la vie. Et déjà, elle me menaçait de s'empoisonner. Et dans la situation extrême où elle s'était jetée, une heure de rage et de délire pouvait la porter au suicide. Le ciel m'inspira mezzo termine. Je résolus de la tromper en laissant une porte ouverte à l'observation de ma promesse. J'exigeais qu'elle allât rejoindre ses amis et sa famille à Milan. J'en fis une condition de mon amour, lui disant que je rougirais de profiter pour la posséder de la crise où elle se jetait, que ma conscience ne serait plus troublée dès que je la verrais reprendre sa place dans le monde et son rang dans l'opinion, que je restais à Turin pour ne pas la compromettre en la suivant, mais que dans 8 jours, je serais auprès d'elle pour l'aimer dans les douceurs du mystère. J'eus un peu de peine à la persuader, mais j'étais assez ému, assez peu sûr de ma force pour qu'elle crût encore à la sienne. Elle partit et je restais brisé de tant d'émotions, fatigué de ma victoire incertain si j'allais me sauver au bord du monde ou la rejoindre pour ne plus la quitter. Je fus plus faible après son départ que je ne l'avais été en sa présence. Elle m'écrivait des lettres délirantes. Il y avait en moi une sorte d'antipathie instinctive que son langage et ses manières réveillaient par instants et qui s'effaçait quand son souvenir me revenait accompagné de tant de preuves d'abnégation et d'emportement. Et puis la solitude me devenait insupportable. D'autres folies me sollicitaient. La Boccaferri m'abandonnait. Celio m'avait trompé. Le monde était vide, sans un être à aimer exclusivement. Les 8 jours expirés, je fis venir un voiturin pour me rendre à Milan. On chargeait mes effets, les chevaux attendaient à ma porte. J'entrais dans mon atelier pour y jeter un dernier coup d'œil. J'étais venu à Turin avec l'intention d'y passer un certain temps. J'aimais cette ville qui me rappelait toute mon enfance et où j'avais conservé de bonnes relations. J'avais loué un des plus agréables logements d'artiste. Mon atelier était excellent et le jour où je m'y étais installé, j'avais travaillé avec délice, me flattant d'y oublier tous mes soucis et d'y faire des progrès rapides. L'arrivée de la duchesse avait brisé ces doux projets, et en quittant cet asile, je tremblais que tout ne fût brisé dans ma vie. Il me prit un remords, une terreur, un regret, sous lesquels je me débattis en vain. Je me jetais sur un sofa. On m'appelait dans la rue, le conducteur de voiturin s'impatientait. Ses petits chevaux, qui étaient jeunes et fringants, grattaient le pavé. Je ne bougeais pas. Je n'avais pas la force de me dire que je ne partirais pas. Je me disais, avec une certaine satisfaction puérile, que je n'étais pas encore parti. Enfin, le voiturin m'a frappé en personne à ma porte. Oh, je vois encore sa casquette de loutre et sa casaque de molleton. Il avait une bonne figure, à la fois mécontente et amicale. C'était un ancien militaire, irrité de mon inexactitude, mais soumis à l'idée de subordination. Eh, mon cher monsieur, les jours sont si courts dans cette saison, la route est si mauvaise. Si la nuit nous prend dans les montagnes, que ferons-nous? Il y a une grande heure que je suis à votre ordre et mes petits chevaux ne demandent qu'à courir pour votre service. » Je fus là toute sa plainte. « C'est juste, ami, lui dis-je. Allez, monte sur ton siège. Me voilà. » Il sortit. Je me disposais à en faire autant. Un papier qui voltigeait sur le plancher arrêta mes regards. Je le ramassais, c'était un feuillet détaché de mon album. Je reconnus la composition que j'avais esquissée dans la nuit où Celio m'avait ramené à ma demeure, à Vienne, après son fiasco. Je revis le bon et le mauvais ange, distraits tous deux de moi par un malin personnage qui avait la tournure et le costume de théâtre de Celio. Je me reportais à cette nuit d'insomnie où la duchesse m'était apparue, si vaine et si perfide, la Boccaferri si pure et si grande. Je ne sais quelle réaction se fit en moi. Je courus vers la porte, j'ordonnai au vetturino de dételer de s'en aller. Je rentrai, je respirai, je mis mon album sur une table comme pour reprendre possession de mon atelier, de mon travail et de ma liberté. Puis l'effroi de la solitude me saisit. Ces grandes murailles nues d'un atelier me serrèrent le cœur. Je retombai sur le sofa et je me mis à pleurer, à sangloter presque comme un enfant qui subit une pénitence et se désole à l'aspect de la chambre qui va lui servir de prison. Tout à coup, une voix de femme qui chantait dans la rue me fit entendre les premières phrases de cet air du Don Juan de Mozart. vedrai, carino, se sei buon fuo, che bel rimedio ti voglio dar. Était-ce un rêve? J'entendais la voix de Cecilia Boccaterri. Je l'avais entendue deux fois dans le rôle de Zerline, où elle avait une naïveté charmante, mais où elle manquait de la nuance de coquetterie nécessaire. En cet instant, il me sembla qu'elle s'adressait à moi avec une tendresse caressante qu'elle n'avait jamais eue en public, et qu'elle m'appelait avec un accent irrésistible. Je bondis vers la porte, je m'élançai dehors. Je ne trouvai que le vetturino qui dételait. Je me livrai à 1000 recherches minutieuses. La rue et tous les alentours étaient déserts. Il faisait à peine jour et une bise piquante soufflait des montagnes. « Reviens demain, » dis-je à mon conducteur en lui donnant un pourboire. « Je ne peux pas partir aujourd'hui. » Je passai 24 heures à chercher à m'informer. Je demandai la Boccaferri, son père et Celio au ciel et à la terre. Personne ne savait ce que je voulais dire. L'un me disait que le vieil ivrogne de Boccaferri était mort depuis 10 ans. L'autre que ce Boccaferri n'avait jamais eu de fille. Et tous que le fils de la Fiorani devait être en Angleterre parce qu'il avait traversé Turin 2 mois auparavant en disant qu'il était engagé à Londres. Je me dis que j'avais eu une hallucination, que ce n'était pas la voix de Cecilia qui m'avait chanté ces 4 vers beaucoup trop tendres pour elle. Mais pendant ces 24 heures, mon émotion avait changé d'objet. La duchesse avait perdu son empire sur mon imagination. Au point du jour, le brave Vetturino était à ma porte comme la veille. Cette fois, je ne le fis pas attendre. Je chargeai moi-même mes effets. Je m'installai dans son frère Legno. C'est comme on dirait à Paris un sapin. Et je lui ordonnai de marcher vers l'ouest. Mais quoi, signori, c'est pas la route de Milan. Mais je le sais bien, je ne vais plus à Milan. Alors, mon maître, dites-moi où nous allons. Où tu voudras, mon ami. Allons le plus loin possible, du côté opposé à Milan. Je vous mènerai à Paris avec ces chevaux-là, mais encore voudrais-je savoir si c'est à Paris ou à Rome qu'il faut aller. Va vers la France, tout droit vers la France, lui dis-je, obéissant à un instinct spontané. Je t'arrêterai quand je serai fatigué ou quand la belle nature m'invitera à la contempler. « La belle nature est bien laide dans ce temps-ci, » dit en souriant le brave homme. « Voyez, au queue de neige du haut en bas des montagnes. Nous passerons pas aisément le mont Cenis. Nous verrons bien. D'ailleurs, nous ne le passerons peut-être pas. Allons, partons. J'ai besoin de voyager. Pourvu que la voiture roule et m'éloigne de Milan, comme de Turin, c'est tout ce qu'il me faut pour aujourd'hui. » « Allons, allons !» dit-il en fouettant ses chevaux, qui firent une longue glissade sur le pavé cristallisé par la gelée. « Tête d'artiste, tête de fou !» Mais les gens raisonnables sont souvent bêtes et toujours avares. « Allez, vive les artistes !»